La librairie de Bannon crée des événements et ses propriétaires, Marc et Isabelle Gaucheran, animent de belle manière notre territoire. Samedi dernier, c'est un magnifique trio féminin qui était invité pour évoquer la littérature comme recours. Les parcours personnels et productions des intervenantes sont marqués par les livres et les recours face au deuil, à la disparition, à l'ignorance, à l'injustice et même face à la guerre. Pour la journaliste et productrice Laure Adler, c'est l'information, les rencontres et la littérature qui ont mené sa vie personnelle et professionnelle. Un temps ministre de la Culture, l'éditrice Françoise Nyssen, en publiant des auteurs parfois méconnus ou oubliés, favorise l'intelligence collective. Enfin, Leïla Chaïd incarne le combat teinté de pacifisme pour la reconnaissance de la Palestine depuis 50 ans. Des femmes de résistance, d'expression et de conviction qui ont partagé leurs lectures et connaissances avec les lectrices et lecteurs du Bleuet dans leurs galeries intimes. Jean Genet, Mahmoud Darwish, mais aussi Edgar Morin, Vinciane Després ou encore Baptiste Morisot nous appellent vers plus d'humanité. Avant d'écouter Leïla Chaïd dans un entretien où nous évoquons plus particulièrement le Liban, je reviens sur la fonction ministérielle de Françoise Nyssen et son rôle d'éditrice, notamment en cette période de préfiguration des prix littéraires. Puis nous entendrons Laure Adler, dont la couleur préférée, les auditeurs de France Inter le savent bien, est le bleu, ce qui est en harmonie avec la librairie de Bannon. Françoise Nyssen, qu'est-ce que vous allez garder comme souvenir de votre passage au ministère de la Culture ?
Mais je ne vais pas garder des souvenirs, j'ai mis ce passage à profit pour essayer de porter des convictions et un engagement pour la culture, pour l'accès à la culture. Une de mes plus grandes convictions, c'est que bien sûr la culture, elle est notre plus grande richesse, elle est le facteur de lien par excellence, et que nous sommes culture dès que nous naissons, et que donc, pour pouvoir partager cette culture, avoir accès à la culture, il faut que dès le plus jeune âge, on se préoccupe de cet éveil au sensible. On se préoccupe, comme dit Sophie Marinopoulos, de la santé culturelle. Et donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup œuvré pour imaginer ce travail, c'est-à-dire la pratique artistique, les artistes à l'école, l'éducation artistique, la lecture partout. Enfin voilà, donc c'est pas un souvenir. J'espère que ça va marquer et que ça continuera. L'angle avait déjà commencé et chaque ministre a essayé. Mais je peux dire que c'était vraiment un des points essentiels, se dire que dans un pays où la culture est reconnue, pour autant, il y a cette question de l'accès à la culture qui est loin d'être satisfaisant. Et on est dans un pays où l'éducation aurait besoin de se nourrir et de donner plus de confiance aux enfants, et cela passe par l'éveil au sensible.
Est-ce que vous avez des regrets de cette période ?
Pas de cette période, j'ai des regrets de ne pas avoir pu plus avancer sur le sujet, parce que ça me paraît absolument fondamental, mais ce n'est pas des avancées très concrètes. Il faut juste s'y mettre, faire en sorte que l'école systématiquement s'ouvre à cela, que l'esprit en général soit ouvert à cette question-là, qu'il y ait la conviction, on l'a bien vu pendant le confinement, tous les modes d'expression de solidarité passaient par une expression culturelle. C'est fondateur. Donc comment se fait-il que le livre n'est pas plus présent, que le roman n'est pas plus présent à l'école, que le théâtre n'est pas plus présent à l'école, que la musique, et pourquoi est-ce que ça reste dans des silos, etc. Je pense que si on veut espérer que ce pays qui est si riche en lieux de culture grâce à des grands ministres, comme on cite toujours Malraux, on cite toujours Lang, et évidemment il y a 16 000 bibliothèques, il y a 1000 lieux de spectacle vivant, il y a 5000 écrans de cinéma, il y a plus de 3000 librairies, enfin il y a des musées, il y a un patrimoine absolument incroyable. Pour autant, il y a une question d'autoriser l'accès et de pouvoir imaginer que plus personne ne dit « ça, c'est pas pour moi ». Donc là, il y a un travail essentiel à faire. Et le seul regret, je dirais d'une certaine façon, que je n'ai pas pu aller plus loin. Je n'avais pas compris qu'il fallait être peut-être plus féroce, plus jouer le jeu d'une communication plus appuyée, plus fonceuse. Moi, j'essaie de travailler, de porter les sujets. Donc, si c'était à refaire, ce que je ne referais jamais, eh bien, j'irais avec, je pense, une espèce de force, voire de férocité pour dire « il faut y aller ». allons-y, faisons ça. Et voilà, tous les râleurs, tant pis, c'est pas grave, on continue.
Alors vous êtes également éditrice avec Actes Sud. On arrive dans la période des grands prix littéraires. L'année dernière et puis les années précédentes, il y a eu Éric Villard, Nicolas Mathieu. Vous avez quelques noms à nous annoncer ou quelques souhaits? Qu'est-ce que ça représente un prix littéraire pour Actes Sud, par exemple?
Mais les prix littéraires ont cette vertu de faire en sorte que c'est un accès à la littérature. C'est vrai que c'est très regardé, c'est très repéré, et c'est une façon d'amener des gens à la lecture qui peut-être n'iraient pas. Pour autant, on ne publie pas pour avoir un prix littéraire. On publie pour faire connaître un auteur auquel on croit, des œuvres dont on pense qu'elles ont une nécessité à être lues, à être diffusées pour qui voudra les lire. Et donc le prix littéraire permet d'éclairer cela. Donc c'est très important pour une maison d'avoir accès à des prix littéraires qui ne soient pas réservés à un petit sérail de gens qui fonctionnent entre eux. Et depuis quelques années, et notamment le Goncourt d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu une ouverture et on ne peut que s'en féliciter. Je pense que l'ouverture du panorama éditorial en France avec beaucoup plus de maisons d'édition plutôt indépendantes, de petite taille, où une création très vive et très intéressante voit le jour, eh bien on participait à cela. On ne peut plus ignorer qu'il n'y aurait que les seuls bons livres dans quelques maisons.
Laure Adler, qu'est-ce que ça représente pour vous, le livre ?
Je ne sais pas ce que c'est le livre, hein. Je sais ce que c'est des livres, je sais ce que c'est avoir un livre avec soi, je sais ce que ça veut dire la possibilité de pouvoir continuer à lire, pour moi ça veut dire continuer à vivre, et j'ai moi-même une mère qui est devenue aveugle en vieillissant et qui a perdu la capacité de lire, et j'ai bien vu à quel point c'était quelque chose d'essentiel, de structurant, de vital. Et j'ai essayé de faire comme j'ai pu, c'est-à-dire je suis devenue lectrice des livres qu'aime ma mère. Mais en tout cas, le livre, pour moi, le livre, évidemment, c'est la Bible, c'est l'Ancien Testament. C'est un texte que je lis tous les matins, je peux pas me lever, d'ailleurs je me lève pas. Je lis d'abord un extrait de l'Ancien Testament et après je me lève, donc je commence mes journées depuis pas mal d'années en lisant le livre, le plus grand livre de l'histoire de l'humanité. Plus je lis, moins je comprends, mais au contraire, c'est passionnant de se déprendre de toutes les certitudes en lisant et en relisant l'Ancien Testament. Moi, je suis quelqu'un qui a lu assez tard. Au grand désespoir de mes parents, je ne lisais pas. Et je ne conseille pas du tout aux parents d'obliger leurs enfants à lire. J'ai moi-même été parent d'enfants qui n'avaient pas envie de lire. Et je crois qu'il ne faut pas du tout contraindre les enfants et s'affoler parce que les enfants ou les adolescents ne lisent pas. Moi, je faisais partie de ces gens qui ne lisaient pas. Ça ne m'intéressait pas. Pourtant, c'était la période où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'écran, etc. Ça ne m'intéressait pas de lire. Et puis, c'est passé par l'amour, hein, comme souvent, par le premier petit ami qui m'a offert... Là, c'était pas la bibliothèque des parents, vous voyez. C'était un livre que mon premier petit ami m'a offert parce qu'il était amoureux de moi. Et là, j'ai commencé à lire. Et à partir de là, ça s'est jamais arrêté.
Vous avez croisé dans votre carrière de nombreux écrivains, des éditeurs, des artistes, des gens qui vous ont marqué ?
Oui, beaucoup. Tous les gens que je rencontre me marquent parce que j'ai la chance de faire un métier où d'abord j'ai la capacité d'inviter qui je veux. Donc je vais inviter des gens que j'admire, que j'aime, et avec cette espèce de côté agent secret où je peux m'approcher de gens sous un prétexte professionnel. Donc je suis impressionnée en permanence par les personnes que je rencontre et qui m'accordent leur confiance.
Revenons un petit peu au livre, si vous voulez bien. On est ici au Bleuet, à Bannon. C'est une librairie dans une zone rurale, une librairie ô combien importante. Quel sentiment ça vous inspire ?
Mais d'abord, j'ai beaucoup entendu parler des Bleuets parce que j'ai une amie très proche qui vit toute l'année à Bannon et qui m'a dit « je pourrais jamais vivre à Bannon toute l'année s'il n'y avait pas les Bleuets ». Donc les Bleuets, elle me parlait sans arrêt des Bleuets. Je me suis aperçue que c'est pas une librairie, c'est une immense maison. C'est un réservoir de mémoire, c'est un réservoir de voyage, c'est un réservoir de sensations, c'est un réservoir d'émotions. C'est une arche de Noé pour des tas de générations. Il se trouve que une fille de mes amies de Bannon, qui vit à Bannon, eh ben elle passe sa vie ici à la librairie. Donc vous voyez, c'est pas seulement un lieu où on vient regarder des livres, acheter des livres, ouvrir des livres. Pour moi, c'est vraiment un lieu de vie, voilà, un lieu de vie incomparable.
La troisième invitée du Bleuet n'est pas française, bien que francophile. Palestinienne, Leïla Chaïd est aussi libanaise, un pays meurtri et un autre qui n'existe pas. Ambassadrice pour la Palestine à Paris et à Bruxelles, entre autres fonctions, c'est sa voix de femme qui a accompagné des décennies durant les envies de reconnaissance et de paix au nom de son peuple. Et aujourd'hui, après l'explosion du 4 août, à Beyrouth, mais aussi la crise qui a conduit à la révolte des Libanais en octobre dernier, son avis compte. Depuis 30 ans, le pays du Cèdre vit sous la coupe de factions, milices armées et partis politiques corrompus, et depuis 2011, il accueille des réfugiés syriens en grand nombre. La jeunesse beyrouthine fuit à l'étranger et la vie au Liban avec une inflation galopante y est impossible. C'est dans ce contexte que le cataclysme de l'explosion des 2750 tonnes de nitrate d'ammonium a porté un coup qui pourrait être fatal à ce petit pays du Moyen-Orient. Leïla Chaïd, comment est-ce que vous voyez l'avenir à court et moyen terme du Liban ?
Je ne vois pas. J'ai le sentiment, vous savez que maintenant que j'ai pris ma retraite, je vis la moitié de l'année à Beyrouth, qui est la ville où je suis née. Je suis palestinienne, née au Liban. Et je me sens aussi libanaise que palestinienne. J'arrive pas à croire entre février, lorsque j'ai quitté Beyrouth, où il y avait une vraie révolution de la jeunesse libanaise depuis le 17 octobre, qui revendiquait la laïcité, l'égalité des femmes et des hommes, le non-confessionnalisme, la lutte contre la corruption. Et maintenant, combien de choses se sont passées? La dévaluation de la livre libanaise à 80% de sa valeur. Ça veut dire celui qui gagnait 800 euros gagne 100 euros aujourd'hui. Vous imaginez la déperdition du pouvoir d'achat des citoyens libanais. Il y a eu le corona qui a frappé très fort partout, inclus au Liban, avec la dévaluation, parce que vous savez, le Liban malheureusement ne produit pas grand chose, donc tout est importé, les masques, le gel, les seringues, tout ce qui concerne les soins à donner aux malades sont importés, et comme il n'y a plus de dollars, il y a des manques dans tous les hôpitaux du pays. Puis arrive en plus cette explosion qui coûte quand même 171 morts aujourd'hui, peut-être 200 demain, et plus de 6000 blessés et pratiquement 40% de la ville détruite. J'ai l'impression que les dieux de l'Olympe ont décidé qu'il fallait jeter un mauvais sort à ce pauvre pays, et surtout à sa population, parce que j'ai jamais eu d'illusion sur sa direction politique. Elle l'a conduit à là où il est aujourd'hui. Mais quel est le crime de ces pauvres citoyens libanais pour être aujourd'hui dans l'état où ils sont? Ça veut dire avec une capitale pratiquement détruite, une crise financière et économique terrible qui a commencé avant, une colère qu'il ne faut pas apaiser contre leur direction politique parce que c'est elle qui les a menés. Ce qui a explosé est un nitrate d'ammonium que personne ne stocke pendant 6 ans dans un port qui est littéralement en plein centre-ville. Le port de Beyrouth, moi j'habite à Beyrouth. Le port de Beyrouth, il est à 2 kilomètres de chez moi. Il est en plein centre-ville parce que le port a toujours été, depuis les Phéniciens, le centre de la vieille ville. Il a grandi, devenu un port moderne. Mais le Liban ne vit que d'importation parce qu'il n'a rien à exporter, sauf ses cerveaux. Et donc, personne ne s'intéresse aujourd'hui à importer des cerveaux. Et donc, le Liban est dans une situation d'une telle gravité que je ne peux pas imaginer. Bien sûr, il n'y a plus de gouvernement, il a démissionné sous la pression de la rue. Bientôt, le Parlement va démissionner parce que plusieurs députés ont démissionné. Le seul président qui a pris la peine d'y aller était Emmanuel Macron, avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Pas un chef d'État arabe n'est venu. Vous remarquez quand même, la solidarité arabe, ça me fait sourire. Et puis, je pense réellement qu'il faut à tout prix que ce malheur permettent aux jeunes Libanais qui mènent cette révolution depuis le 17 octobre reprennent leurs revendications, parce que la seule raison pour laquelle ils ont arrêté leurs manifestations, c'est le corona. Parce que octobre, novembre, décembre, janvier, février, ils ont arrêté en mars lorsqu'il y a eu confinement. Et je pense que la seule bonne nouvelle de la dernière année pour le Liban, c'est ce mouvement du 17 octobre. Et s'il reprend le dessus, et s'il arrive à inverser le rapport de force entre cette classe d'oligarques corrompus, trafiquants, criminels, qui ont gardé les 2750 tonnes d'ammonium dans le port, peut-être qu'on peut imaginer dans quelques dizaines d'années un avenir. Mais pour le moment, c'est très difficile parce que ce mouvement social des jeunes, c'est un mouvement social, ce n'est pas des partis politiques. Alors, il faut avant tout qu'ils puissent s'organiser pour proposer une alternative politique. Et donc, avoir des élections immédiatement avec la loi électorale qui est très confessionnelle, sur des bases confessionnelles, ça ne sert à rien. Il faut une nouvelle loi. Pour une nouvelle loi, il faut un nouveau parlement. Pour un nouveau parlement, il faut mettre à la porte les anciens parlementaires. Vous voyez, c'est un cercle vicieux.
La communauté internationale a peut-être un rôle à jouer. Vous avez évoqué Emmanuel Macron.
Oui, je dirais que, vous savez, je ne crois plus dans une communauté internationale à cause de la Palestine. Vous trouvez que c'est normal qu'aujourd'hui, le lendemain de la déclaration de M. Trump, qu'il a favorisé la reconnaissance diplomatique, économique, sécuritaire entre les Émirats arabes unis et Israël, sans aucune contrepartie, aucune. Parce que lorsqu'ils prétendent qu'ils ont empêché l'annexion des territoires de Cisjordanie, Netanyahou, une demi-heure après, annonçait que non, il n'a pas arrêté, il a juste suspendu. Donc c'est de la foutaise. Je le dis avec un terme vulgaire comme foutaise, parce que je suis très en colère. Et je trouve que nous sommes dans une situation aujourd'hui, lorsque je vois que M. Guterres, le secrétaire général, se croit obligé, parce que c'est les Américains qui ont lancé l'idée de saluer cela. Même le président Macron, je suis très fâchée contre lui. Je l'admire beaucoup pour ce qu'il a fait au Liban, mais je suis scandalisée qu'il appelle ça un acte courageux. Qu'est-ce qu'il y a de courageux ? De donner sans aucune contrepartie une reconnaissance diplomatique à Israël, sans aucune contrepartie pour les Palestiniens, aucune. D'ailleurs, les Émirats arabes unis, en reconnaissant Israël sans contrepartie, ils cassent pour toujours la proposition arabe du roi Abdallah qui disait « La seule chose qui est la condition de notre reconnaissance, c'est la reconnaissance d'un État palestinien en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est. » Les Émirats, en cassant cette promesse, ils cassent ce qu'on appelle l'initiative arabe qui dure depuis 2002 et qui inclut tous les pays arabes et même tous les pays musulmans. Donc, je suis fâchée contre le président Macron, je suis fâchée contre la communauté internationale qui, comme des moutons, parce que les Américains ont lancé l'initiative, disent c'est très courageux, ça va permettre de reprendre les négociations. Quelle négociation ? Avec qui ? Netanyahou ne reconnaît même pas un peuple, ni une organisation, ni une autorité nationale. Et il pense qu'il va faire la paix avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn et l'Arabie saoudite qui sont à 3000 km de la Palestine. Non, ça ne va pas peser très lourd. Mais ça donne aux Palestiniens un sentiment de grande amertume à l'égard des pays arabes du Golfe, qui pour moi sont des McDonald's. Des McDonald's issus du fait que le pétrole leur a permis d'être très riches et qu'ils ont mis toutes leurs économies dans les banques américaines et en dollars et qui sont là. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que les Émirats Arabes Unis, avec les Américains, avec les Saoudiens, avec l'Égypte, c'est eux qui mènent la guerre contre le Yémen. Où aujourd'hui, on a affamé un peuple, on a détruit une société sans aucune raison, soi-disant parce qu'on combat les Houthis. Les Houthis, c'est des Yéménites, de religion chiite. Il y a au Yémen des chiites et des sunnites. C'est normal. Ils ont détruit un pays. Maintenant, les Émirats arabes unis financent la guerre en Libye. Et donc, c'est des succursales américaines et israéliennes. La seule bonne chose, c'est que maintenant, au moins, ils sont démasqués. On voit bien que c'est la politique qu'ils mènent. Ils pensent qu'ils vont pouvoir, comme ça, avec le soutien de M. Trump, lequel va aller dans la poubelle de l'histoire, gagner. Mais ils ne vont rien gagner. Mais pour la population palestinienne qui vit depuis 53 ans sous occupation militaire et 72 ans d'exil et de négation, ça donne quand même un sentiment de très grande déception à l'égard des habitants, pas du Cheikh, qui personne n'a jamais eu d'illusion sur lui, MBZ il s'appelle, Mohamed Ben Zayed, comme on n'a pas d'illusion sur Mohamed Ben Salman, le dauphin de l'Arabie Saoudite, mais de la population émiratée. Il y a beaucoup de Palestiniens qui travaillent aux Émirats Arabes Unis. Je ne voudrais pas être à leur place parce que c'est difficile d'être des Palestiniens accueillis, résidents dans les Émirats Arabes Unis parce qu'ils ne peuvent pas travailler chez eux et d'avaler cette couleuvre.
Leïla Chahid, pendant un demi-siècle, au moins, vous étiez sur la scène internationale, vous l'êtes toujours un petit quart de siècle.
Un quart. J'ai été ambassadeur de Palestine 25 ans, mais je milite depuis un demi-siècle, oui.
Alors
je
justement,
depuis 67, oui.
Quel est votre moteur? Qu'est-ce qui vous remplit d'énergie?
La force et la vitalité de la société civile palestinienne. Qu'elle soit en Israël, parce que nous avons 2 millions de citoyens palestiniens qui sont des citoyens israéliens par ailleurs, ils ont un passeport israélien, une carte d'identité. Ils ont aujourd'hui le troisième parti à la Knesset israélienne, c'est le parti de la liste arabe dirigé par Ayman Oudeh. Ils ont 15 députés à la Knesset. Nous avons 5 millions de Palestiniens en Cisjordanie et Gaza et Jérusalem-Est. Nous avons 6 millions de Palestiniens dans la diaspora qui sont au Liban, en Jordanie, en Amérique, au Canada, en France, en Belgique. Et ils sont tous très convaincus de la justesse de leur cause. La justesse et la justice, mais la justesse aussi, comme dirait Jean Genet. Et ils ne se laissent pas abattre, parce qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose que rarement des peuples en conflit aussi long font. Ils ont reconnu le droit de leur ennemi, ils ont reconnu le droit de leur tortionnaire sur le plan humain à exister, mais leurs tortionnaires n'ont pas encore reconnu notre droit. Et lorsque vous dépassez la haine, vous gagnez un combat magnifique contre vous-même. Parce que la haine, elle est avant tout autodestructrice. Les Israéliens et ces messieurs et dames du CRIF qui ont une telle haine pour tout ce qui n'est pas israélien et sioniste, ils sont avant tout autodestructeurs. Ils mènent les jeunes qui les suivent parce que la haine est quelque chose qui est comme un cancer qui vous ronge. Nous, on n'a pas de haine. Nous, on a dit on est prêt à accepter un État d'Israël à côté de l'État de Palestine. C'est très rare dans des conflits où il est évident que nous sommes encore sous occupation militaire et Israël vient de voter une loi qui dit uniquement les Juifs sont des citoyens naturels de l'État. Donc qu'est-ce qu'ils font des 2 millions qui ne sont chrétiens et musulmans? C'est quoi? C'est un État d'apartheid? Alors qu'ils le disent depuis le début. Je vais vous dire, la force de cette société, son humanité, sa tolérance, son ouverture d'esprit, son niveau d'éducation, sa capacité de se renouveler, de faire des amis à travers le monde, dont beaucoup en France. Et moi, j'ai 71 ans. Je suis arrivée en 74, j'en avais 25. De 25 à 71, j'ai vu combien le milieu solidaire, militant, qui défend la Palestine en France et dans toute l'Europe a grandi, qu'il inclut des personnalités, dont énormément de personnalités juives, comme Edgar Morin, par exemple, qui se fait traîner dans la boue par M. Meir Habib, soi-disant le député des Français de l'étranger. C'est une honte. Et je vais vous dire, cette solidarité donne aux Palestiniens beaucoup de force. Parce qu'on n'a pas de pétrole, on n'a pas de missiles, on n'a pas de bombes nucléaires, on n'est pas des commerçants, mais on a des amis dans le monde. Et c'est comme dans une famille. Si vous n'avez pas de chaleur, pas de solidarité, vous vous sentez très seul. Eh bien, nous nous sentons très entourés, très aimés, très soutenus. Et on finira par gagner parce que c'est le sens de l'histoire. Hein. D'autres sont passés par là avant nous. Les Algériens, les Vietnamiens, les Sud-Africains. Le jour viendra où l'histoire prouvera que les Palestiniens ont droit à exister libres et indépendants comme tout le monde.